France Culture.
François Bayrou a prononcé ce jour son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Une question, un débat même ce soir. Les propos du Premier ministre dessinent-ils une sortie de crise politique? Pour en débattre, deux invités, deux exégètes même ce soir. Agathe Cagé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, autrice de cet ouvrage intitulé « Classe figée, comment la France comprendre la France empêchée ?» Un ouvrage qui a paru il y a un an tout juste aux éditions Flammarion. Face à vous, Roland Cayrol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur de recherche au CEVIPOF, auteur de cet ouvrage intitulé quant à lui « Mon voyage au cœur de la Ve République », un ouvrage qui a paru chez Calman Lévy. Merci à vous deux d'être présents ce soir chez Questions du Soir.
Nous avons à faire face à trois échéances. La première, c'est l'urgence. Il faut nous ressaisir pour adopter sans tarder les deux budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Cette précarité budgétaire, nous la payons tous au prix fort, entreprises, investisseurs, familles, contribuables, emprunteurs. Deuxième défi, mettre en place les conditions de la stabilité qui imposent de se réconcilier, ce dont le pays a tant besoin et que ses citoyens ne cessent de réclamer. Et troisième défi de plus long terme, notre pays doit refonder son action publique, ce qui exige que nous nous attaquions sans tarder à tous les problèmes devant nous et non à certains, à l'exclusion des autres.
Un extrait du discours de politique générale exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale par François Bayrou. L'entourage du Premier ministre avait annoncé hier que François Bayrou souhaitait que sa déclaration soit, je cite, « concrète et compréhensible ». Agathe Cagé, est-ce que selon vous ces deux ambitions-là sont atteintes ce soir ?
La deuxième, oui, c'est un discours qui était compréhensible. Est-ce que c'est un discours qui était concret? Je pense qu'il a... Le Premier ministre a manqué beaucoup de concret lors de ce discours. Mais pourquoi il a manqué de concret lors de ce discours? Parce que c'est pas un discours qui a été construit pour porter une vision ni de la France, ni de la société française. C'est un discours qui a été construit pour essayer de trouver un nouvel équilibre politique devant l'Assemblée nationale et se garantir quelques mois d'exercice du pouvoir. Là où il a manqué de concret, par exemple, c'est dans sa manière d'aborder le sujet de la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'il a dessiné une méthode qui était plus une sorte de gloubli-goulba technocratique, cette idée de conclave dans un bureau. Alors oui, on voit le bureau, on voit les trois mains, on voit les personnes enfermées dedans, mais comment produire de l'action publique, comment produire du dialogue avec les partenaires sociaux concrètement, comment avancer sur ce sujet, il n'y avait pas véritablement d'horizon. Ces trois mois, un conclave, formulation très technocratique à mon sens, la Cour des comptes qui arrive en amont, et après on verra ce qui pourra arriver. Sur les autres sujets, il était aussi comme ça, François Bayrou, c'est-à-dire presque déstabilisé par le défaut d'équilibre de son équation a priori.
Roland Cayrol, est-ce que vous abondez? Est-ce que pour vous, ce discours, il manquait effectivement de profondeur, de vision? On a souvent tendance à expliquer que François Bayrou est un homme politique qui s'inscrit dans une ligne démocrate chrétienne. Est-ce que vous avez retrouvé cette pensée française dans ce discours prononcé cet après-midi?
Oui, sa fibre personnelle, c'est évidemment la démocratie chrétienne. Il a d'ailleurs cité Marc Sangnier, ce qui ne se fait pas très souvent à l'Assemblée nationale. C'est un démocrate chrétien et c'est en même temps, c'était aujourd'hui un Premier ministre qui avait au fond un double objectif. Le premier, c'est d'éviter la censure, et le second, c'était de faire croire qu'il était là pour longtemps. Et je crois que c'est à dessein qu'il a été long, et non seulement complet, mais presque trop complet. Tous les départements ministériels ont été présents, du sport au handicap, de la politique étrangère à la retraite. Je crois qu'il y avait là une espèce de volonté de montrer que c'était pas juste un Premier ministre de transition qui essayait juste de faire un peu plus longtemps que Michel Barnier, mais qu'il était là pour longtemps.
C'est pour ça qu'il a fait un long discours, vous êtes
oui,
en train de nous dire.
Je crois qu'il a fait un discours qui portait sur tous ces sujets-là, avec chaque fois des plans à moyen, voire long terme, qui paraissait un peu absurde dans la conjoncture actuelle, mais qui, à mon avis, était pour lui justifié par cette volonté d'essayer de montrer que, selon lui, il est là, je ne sais pas, jusqu'en 2027.
Agathe Cagé, est-ce qu'il vous a semblé que François Bayrou pouvait trouver la majorité jusqu'alors introuvable dans cette assemblée formée en juillet dernier ?
Je pense qu'il tente en effet de s'inscrire dans le temps long, qu'il aura des difficultés à s'inscrire dans le temps long, et que s'il arrive à gouverner plus que quelques mois, ça sera plutôt du fait du défaut de positionnement de ses oppositions, plutôt que de la ligne politique que lui-même a fixée. Là où il a été fidèle à lui-même et où il est très fort sur ses bases, c'est que finalement, la première partie, la première structuration de son discours sur l'endettement de la France, avec une formulation que je trouve malheureuse, hein, la formulation surendettement à un moment où la Banque de France vient d'annoncer que les Français, que de plus en plus de Français connaissaient cette situation de surendettement, ce mot de surendettement est un peu malheureux pour désigner la situation des finances publiques françaises, mais il est fort sur son axe de l'endettement, qui est un axe que lui porte politiquement depuis maintenant des années et sans doute bien avant un certain nombre de ses prédécesseurs. Mais une fois qu'il a posé ce pilier-là, la manière dont il va véritablement conduire la situation du pays, créer des alliances, on voit pas véritablement ça apparaître, et il a cette difficulté d'avoir une équation politique où, véritablement, il n'a pas de ligne de conduite qui soit distincte de celle du président de la République. Or, le président de la République n'a pas de majorité. Donc, François Bayrou lui-même n'a pas de majorité. Il avait une solution pour s'en sortir. C'était une solution très, très risquée. C'était de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale à l'issue de son discours de politique générale. Il aurait fait ça. Il aurait posé, par le vote, sollicité, le fait qu'il gagnait sa légitimité devant l'Assemblée nationale, parce que un des résultats des élections législatives anticipées, c'est que les Français ont demandé un parlementarisme fort. Il ne fait pas ce choix, donc il s'affaiblit, parce qu'en fait, il n'a pas de source de légitimité propre, il ne l'attire pas du président de la République, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, il ne l'attire pas de son groupe parlementaire, qui n'est pas le premier groupe à l'Assemblée, il ne l'attire pas d'un vote direct obtenu des députés, parce qu'il ne va pas faire ce choix, qui aurait été un choix audacieux, mais sans doute le seul choix à même de lui conférer une légitimité de long terme.
Roland Cayrol, votre réaction sur ce point soulevé par Agathe Cagé ?
Je suis d'accord avec elle sur l'essentiel de ce qu'elle a dit, sauf sur le dernier point. On ne peut pas demander à des gens de donner ce qu'ils ne peuvent pas donner dans la situation où ils sont.
C'est-à-dire ?
Un vote de confiance. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Donc demander un vote de confiance, c'est savoir à l'avance que ça sera non. Donc il est réduit à faire une déclaration de politique générale sans vote, à l'opposition, aux oppositions, de montrer, eux, qu'ils sont capables de voter une motion de censure. C'est assez logique dans le système de la Ve République, mais ça l'est surtout en ce moment avec ce manque de majorité.
Ça veut dire qu'on obtient la confiance par défaut lorsque des groupes politiques expliquent qu'ils ne voteront pas la motion de censure ?
C'est exactement ça, oui. Et encore une fois, c'est la logique de ces institutions. Et ça l'a toujours été. Michel Rocard a utilisé 28 fois l'article 49.3 quand il était Premier ministre. C'est la même chose. Il n'y avait pas de majorité claire au sein de l'Assemblée nationale. La seule façon, c'est de faire et d'attendre en face si des gens ne veulent tellement pas de votre politique qu'ils préfèrent de vous renverser en même temps. C'est un des éléments introduits dans la Constitution de la Ve par Michel Debré et ceux qui plaidaient pour un parlementarisme dit rationalisé, qui renvoie un peu à l'opposition la responsabilité de mettre en cause l'existence du gouvernement.
Agathe Cagé.
Entre confiance par défaut et défaut de confiance, on est sur une ligne de crête qui est extrêmement fine. La différence avec la situation de Michel Rocard, notamment avec la situation d'autres aussi, avec la situation de ses prédécesseurs Gabriel Attal et Elisabeth Borne, c'est que eux représentaient le premier groupe de l'Assemblée nationale. Là, François Bayrou arrive comme Premier ministre par le choix du président de la République sans que le premier groupe politique à l'Assemblée nationale ait pu tenter de former un gouvernement, ce qui affaiblit beaucoup plus sa légitimité que les situations qu'on a pu connaître précédemment au cours de la Ve République.
Oui, mais c'est pas le parti qui compte, c'est l'alliance de départ. Or, il y a une alliance du bloc central, ou on appelle ça comme on veut, qui est celle qui a le plus de députés au sein de l'Assemblée nationale. Puis l'ensemble, Ensemble pour la République, Horizon et le Modem, auquel appartient Bayrou, c'est la force la plus importante de l'Assemblée.
Agathe Cagé, est-ce que la stratégie de François Bayrou est aujourd'hui la même que celle de Michel Barnier il y a quelques semaines encore pour tenter de trouver des alliés politiques ? Est-ce qu'il regarde dans la même direction ? On a l'impression que François Bayrou s'est, quant à lui, beaucoup plus tourné vers la gauche ou du moins vers le Parti Socialiste pour ce faire.
Ouais, disons que François Bayrou a fait le choix de ne pas se tourner vers le Rassemblement National. C'est-à-dire que Michel Barnier avait fait ce choix de discuter, de négocier, de mettre en scène sa négociation avec le Rassemblement National, de mettre en scène ses concessions avec le Rassemblement National, y compris de reprendre certains de ses ministres pour donner des gages au Rassemblement National. Et François Bayrou tire des conclusions différentes des élections anticipées de l'été, en disant... C'est une des conclusions fortes qui semble en tirer en disant attention, s'il y a une des conclusions qu'on peut tirer de ce vote, c'est un rejet par la majorité des Français de voir le Rassemblement National arriver au pouvoir. Donc de voir le Premier ministre, quel qu'il soit, gouverner avec le Rassemblement National. Donc François Bayrou, a priori, refuse ce champ de la négociation et regarde ailleurs. Est-ce que pour autant, il négocie véritablement avec le Parti Socialiste, avec un certain nombre de membres du nouveau Front Populaire? Ça, c'est plus incertain, parce qu'on a vu une mise en scène de discussions tout au long de la semaine, jour après jour, notamment autour du ministre de l'Économie et des Finances, sans que cela se traduise concrètement par une réelle avancée dans le discours de politique générale. Donc, il y a une mise en scène qui est plutôt tournée vers la gauche de l'Assemblée nationale, une réalité des avancées proposées et du programme proposé par le Premier ministre, qui est assez différente par rapport à ces mises en scène.
Roland Querol, est-ce qu'il vous semble aussi que François Bayrou est un faux négociateur, ou en tout cas un négociateur en tout cas qui fait semblant de proposer des choses au Parti Socialiste ?
Non, pas tout à fait. Je crois, comme Agathe Cagé, que sa volonté de départ, c'est de se passer du Rassemblement National. Mmh. Et évidemment, la logique, c'est du coup de regarder ailleurs, et donc de regarder du côté du Parti Socialiste. Je dis du Parti Socialiste et pas de la gauche, parce que, très évidemment, l'ambition, c'est de casser le nouveau Front Populaire, et de ne s'entendre qu'avec les socialistes, pas avec la France Insoumise. Les communistes passent très peu, et les écologistes s'alignent sur la France Insoumise. Donc,
parce qu'ils ont annoncé cet après-midi qu'ils voteraient la motion de censure ce jeudi.
Absolument. Les écologistes sont toujours fidèles à l'alliance avec la France Insoumise, et vont le rester dans les mois qui viennent. Les socialistes, on sent qu'ils sont divisés, hésitants, et c'est pas complètement absurde d'essayer de négocier avec eux. C'est un peu le maillon faible de l'opposition du nouveau Front Populaire. Et moi, je crois qu'il a commencé une vraie négociation. Que si sur les retraites, le fait même qu'il ait dû sortir de l'âge de la retraite, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem, y compris sur l'âge, as il dit aujourd'hui, et de se dire on va s'en remettre plutôt à une négociation avec les partenaires sociaux, à mon avis c'est un vrai effort de négociation qui, je crois, ne laisse pas complètement neutre beaucoup de socialistes.
Alors, ça, c'est à mettre au crédit du Parti Socialiste ?
C'est à mettre au crédit de la négociation entre les socialistes et Bayrou. Ils ont quand même progressé. C'est là que je suis un peu plus optimiste pour le compromis que l'est Agathe Cagé. Je crois que quelque chose a commencé, que les socialistes sont en train de se dire « Ah, est-ce qu'on prend le risque de se séparer des LFI sur un sujet extrêmement important qui concerne les Français quotidiennement, qui est la retraite ? Ou est-ce qu'on va pas jusque-là ?» Et ils sont divisés. Ils ont un bureau national, je crois, demain, où ils vont sans doute s'affronter.
Un bureau national qui s'est tenu cet après-midi.
Aujourd'hui,
et ils étaient effectivement très très clivés, ces socialistes.
Voilà. Et donc, ça traduit bien ce double état d'esprit. Et à mon avis, les chances qu'on aboutisse finalement, oh non pas à une alliance, c'est trop tôt pour parler d'une alliance possible, mais à... D'abord, un non-vote de la censure par les socialistes. Et ensuite, la participation au débat tel qu'ils pourraient s'abstenir, voire voter pour un certain nombre de textes. Ça, je crois que c'est une vraie possibilité.
Là où j'apporterai une nuance à ce que dit Roland Querol, c'est que la fidélité des écologistes et la question qui se pose sur les socialistes, pour moi, c'est pas la question de la fidélité ou de l'alignement par rapport à la France insoumise. C'est la question de la fidélité par rapport à un programme, celui du nouveau Front Populaire, sur
c'est
lequel
ce
ils se sont
oui.
fait élire. Non, mais c'est une véritable question, parce qu'il y a quand même une question en France aujourd'hui de comment se tisse le lien démocratique. On a eu des élections législatives anticipées dans lesquelles on a vu pour la première fois depuis 1997 des taux de participation qui remonter véritablement, y compris dans un second tour organisé en plein été. Donc il y avait une vraie volonté démocratique des citoyens d'aller voter. Or, sur quoi se sont faites ces élections ? En partie, quand même, sur des programmes. Et la fidélité à ce qui est écrit dans le programme, c'est quelque chose qui est fondamental. Et le seul élément sur lequel, pour l'instant, dans l'équation politique complexe dans laquelle on est tous plongés aujourd'hui, il y a une la fidélité peut véritablement s'affirmer, c'est la question de la réforme des retraites. Donc les écologistes, ce qu'ils regardent, c'est pas un alignement ou non par rapport à la France insoumise, c'est est-ce qu'on obtient au moins sur cette question de la réforme des retraites, contre laquelle l'immense majorité des Français et l'ensemble de la démocratie sociale s'est opposée, est-ce qu'on obtient quelque chose de réel, est-ce qu'on obtient quelque chose de concret, est-ce qu'on obtient plus que une forme de négociation appelée conclave, qui sera déterminée par un rapport de la Cour des comptes, dont on sait que a priori, il faut quand même avoir ce point en tête, les questions qui vont être posées à la Cour des comptes peuvent déterminer une partie des réponses. Donc, il faut regarder de très près aussi la manière dont le sujet va être mis sur la table. Est-ce que ces engagements qu'on a pris par rapport aux Français, que le nouveau Front populaire, ses différentes composantes ont pris par rapport aux Français, les socialistes et les écologistes doivent se poser cette question-là. Est-ce que par rapport à ces engagements, au moins sur l'engagement d'obtenir la suspension ou la fin immédiate de la réforme des retraites, on a quelque chose à montrer à nos électeurs. Ou est-ce qu'on va dans une forme d'accord avec le gouvernement de François Bayrou, qui est un accord qui ne repose sur aucune des données par rapport auxquelles les différentes composantes du nouveau Front populaire sont allées se faire élire.
Selon vous, Roland Cayrol, le Parti socialiste, en négociant avec François Bayrou, en rompant aussi avec le nouveau Front populaire, ne rompt pas une forme de pacte démocratique élu durant les élections législatives de juillet dernier ?
Bien sûr que si, mais moi, contrairement à Agathe Cagé, que je trouve là un peu ou idéaliste ou un peu trop marqué par les positions des LFI sur ce point, je ne crois pas que le programme soit absolument déterminant dans le vote des électeurs. La plupart des électeurs ne connaissent pas les programmes, disent aux sondeurs qu'ils ne les ont pas lus. On vote sur des étiquettes, sur un sentiment d'appartenance. Mais
si on accepte ce principe-là, néanmoins, c'est difficile de mener une vie démocratique saine, Roland Cayrol.
Ah, mais tout à fait, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas eu, on ne peut pas dire qu'il y ait eu sur le programme une espèce de véritable discussion accord. Les socialistes ont fini par se rallier, parce qu'ils s'intéressent moins aux questions de programme que Mélenchon, ils ont fini par se rallier à ce qui leur était proposé en enlevant simplement quelques points de désaccord tels que ça ne pouvait pas figurer. Il n'y a rien sur l'Alliance Atlantique, l'Europe, etc. Parce que là, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Donc on enlève ce sur quoi on sait qu'on ne peut pas signer et on laisse le reste parce qu'on sait bien que le programme, et a fortiori si ça doit être rien que le programme et tout le programme, ça n'est pas susceptible d'être vraiment respecté. Donc, le problème, c'est pas d'être fidèle au programme, c'est est-ce qu'on rompt ou pas l'alliance ? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'il y a l'idée d'abord qu'on s'est présenté dans une alliance devant les électeurs et qu'on ne leur demande pas leur avis pour rompre l'alliance. Mmh. On suit ses intérêts de parti et ce qu'on dit être, ce qu'on pense être l'intérêt de la France. Mais il est vrai qu'on rompt une alliance et que c'est une responsabilité lourde, d'abord parce que moralement, ça peut se discuter, et puis parce que s'il y a des élections anticipées et même pas anticipées, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit on a rompu l'alliance et c'est fini ? Ou est-ce qu'on essaye de rabibocher une union de la gauche ? Là, le Parti socialiste est devant des questions, je dirais, genre existentielles.
Je vous laisse répondre, Agathe Cagé, en quelques mots sur l'accusation, c'en est une, hein, d'idéalisme. Et après, on entre dans le détail de ce qu'a proposé François Bayrou sur les retraites.
Non, sur l'idéalisme, je prends tout à fait sur une potentielle grille de lecture qui serait liée à la France insoumise. Absolument pas. Mais le vrai sujet, pour moi, c'est pas un sujet d'idéal ou pas d'idéal. C'est qu'est-ce qu'on appelle travail politique et qu'est-ce qu'on appelle engagement politique aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel il est important de discuter collectivement. Une des faiblesses de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en 2022, c'est qu'il a choisi de se faire réélire sans faire campagne et sans mettre sur la table un certain nombre d'engagements et sans expliquer aux Français ce qu'il allait faire pendant 5 ans. Sauf sur les retraites. sauf sur les retraites, ce qui explique le fait que non seulement il n'obtient pas de majorité absolue, qu'il obtient une majorité relative, tout à fait relative, et qu'il perd ensuite toutes les séquences électorales qui suivent. Parce que qu'est-ce que veut dire le travail politique et l'engagement politique ? Désolée de reprendre là Hannah Arendt, mais c'est le fait de faire des promesses et ensuite d'avoir la capacité de tenir ces promesses, quelles que soient les circonstances, et y compris si les circonstances sont extrêmement compliquées et extrêmement difficiles. Là, on est en train de perdre totalement ce sens de l'engagement politique. Et c'est pour ça que les électeurs ne s'y retrouvent plus. Au moment des élections législatives anticipées, il y a eu ce grand mouvement vers les urnes parce que les électeurs ont compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait de très fort dans le pays et pour l'avenir du pays. Mais on n'est pas en train de parler là uniquement du court terme, ni uniquement du court terme de l'avenir politique de François Bayrou que celui-ci dessine à 3 semaines, 3 mois ou à 6 mois. On est sur la capacité de continuer à faire vivre la démocratie représentative dans le pays. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Et en effet, là, je rejoins notamment Roland Cayrol, il y a un sujet de l'union de la gauche. C'est-à-dire que si vous vous présentez devant les électeurs en disant « on se présente en faisant une union de la gauche parce qu'on perd, on n'est plus fort ensemble sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet des services publics, de la justice sociale et de la justice fiscale », que par rapport à nos divergences et que le lendemain, vous balayez tout ça d'un revers de la main en considérant que vous pouvez totalement rebasculer dans votre jeu d'alliance, y compris avec un jeu d'alliance qui inclut Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, pour vous représenter devant les électeurs, vous n'avez plus aucune relation de confiance qui est tissée avec eux. Et ça met véritablement à mal notre démocratie.
Retour au texte, c'est-à-dire au discours de politique générale exprimé par François Bayrou cet après-midi. Il parlait notamment de la réforme des retraites, une réforme ni suspendue ni abrogée.
La première urgence, c'est de répondre à la question des retraites qui occupe le débat public depuis longtemps. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite, et ce résultat, le gouvernement le communiquera à tous les Français.
Roland Cayrol, qu'est-ce qu'a dit ou tenté de dire François Bayrou sur les retraites cet après-midi? Est-ce qu'il donne un peu plus de grain à moudre à la démocratie sociale et notamment aux partenaires sociaux pour les mois à venir, ou il cherche simplement alors à gagner un peu de temps?
À mon avis, les deux. C'est habile. Parce qu'en effet, c'est difficile pour des partis de gauche de dire que remettre en chantier la discussion sur la loi retraite avec les partenaires sociaux, ça leur est difficile de dire non. Et d'ailleurs, le représentant du Parti socialiste, Boris Vallaud, dans le débat de cet après-midi, a dit « Je ne peux pas être contre la mise en jeu des partenaires sociaux ». Donc ça, c'est plutôt habile. Et en même temps, après tout, c'est peut-être une bonne solution. Dans la mesure où c'est tellement compliqué de trouver une majorité parlementaire pour voter ce qui pourrait être des additifs ou des correctifs à une loi de 2023, puisque c'est si compliqué, il vaut mieux essayer de sortir et trouver une autre méthode. Et la méthode de la démocratie sociale, sur un sujet éminemment social, ça peut paraître légitime.
Agathe Cagé, est-ce que c'est une bonne solution, selon vous, justement, sans remettre à la démocratie sociale ?
La méthode de la démocratie sociale, notamment sur ce sujet des retraites, où la démocratie sociale avait véritablement été mise à mal. On ne peut que s'en féliciter. Après, il y a un biais, c'est-à-dire le biais d'une discussion qui est ouverte, alors que la réforme continue de s'appliquer, et un biais d'une annonce qui est, si jamais un accord n'est pas trouvé dans les 3 mois que je fixe comme Premier ministre pour la discussion, alors la réforme s'applique. C'est une démocratie sociale sous très forte contrainte. On aurait pu espérer que François Bayrou, y compris d'un point de vue symbolique, annonce une forme de suspension de cette réforme des retraites pendant le temps de cette discussion en termes de démocratie sociale. On voit bien là qu'on a un Premier ministre qui n'ose pas totalement s'émanciper de ce que lui a demandé de faire le chef de l'État. Et pour moi, c'est une nuance quand même à apporter à cette méthode de la démocratie sociale qu'il propose.
On peut quand même s'interroger, Roland Cayrol, sur la méthode plus générale proposée par François Bayrou, proposée à la Cour des comptes notamment d'organiser une mission flash sur le sujet. Cela fait des mois que l'Inspection Générale des Finances, que le COR, le Conseil d'Orientation des Retraites, produit des données et des rapports sur ce sujet. On sait ce qu'il en est de l'état de nos retraites. On peut aussi s'interroger sur cette méthode de la démocratie sociale. On sait ce que pense la CGT, la CFDT, la CFTC, l'ensemble des syndicats de travailleurs sur le sujet de la réforme des retraites et sur l'ensemble des angles qui sont proposés, non ?
Non, mais à ce moment-là, on n'aurait plus de discussion avec personne, puisqu'on est censé savoir ce qu'ils pensent. Non, ça, c'est pas une objection que je vais retenir.
On sait non seulement ce qu'ils pensent, on sait exactement ce qu'ils proposent également.
Alors, donc pas de discussion possible. Non, je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'on est à un moment suffisamment crucial pour que les différents acteurs aient un intérêt et, je crois, une envie de remettre les problèmes sur la table et de trouver des solutions que chacun appellera la plus juste possible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de trouver un peu de justice dans la répartition des efforts et des bénéfices de la loi sur les retraites. Il navigue à vue là-dessus, Bayrou, puisqu'il n'a pas de majorité. Moi, je m'attendais à ce qu'il prononce le mot de suspension ou de gel pendant la discussion, pendant, mettons, les 3 mois de discussion qu'il ouvre. Ça me paraissait logique. À vrai dire, j'espérais qu'il irait jusque-là. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que il a aussi un verrou à droite et que le président du Sénat, fortement, le responsable principal de la droite républicaine,
Laurent Wauquiez,
on dit pas question ni d'abrogation ni de suspension, même provisoire. Et là, il risquait de perdre sur sa droite ce qu'il essayait timidement de gagner sur sa gauche. Mais ça n'empêche pas qu'il y a réellement l'ouverture possible d'une discussion avec les partenaires sociaux. Et c'est ça qui, à mon avis, domine et est positif. Qu'on mette la Cour des comptes pour nous faire une énième évaluation du financement, car il ne s'agit que de ça, hein, où en sont les finances du financement de la retraite. Bon, moi, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir un document sur lequel chacun peut essayer de partir pour discuter.
Il existe déjà tout de même ce document.
Il existe plein de documents. Mais c'est pas mal au début d'une discussion d'avoir un nouveau document qui fait le point.
Agathe Cagé, sur le sujet, l'autre grand sujet du discours prononcé par François Bayrou, le discours de politique générale, c'est évidemment l'enjeu budgétaire. Et dans quelques jours, les discussions reprendront non pas à l'Assemblée, mais au Sénat. Les discussions reprendront mercredi à venir. Est-ce que là, à l'Assemblée, cette fois-ci, il est possible de trouver un accord sur le budget à venir?
Il va y avoir énormément de difficultés sur l'accord sur le budget, parce que si François Bayrou, sur le budget comme sur les retraites, essaie de trouver l'équilibre du en même temps, dont on voit bien la fragilité maintenant depuis plusieurs années, il ne va pas réussir à trouver un véritable équilibre entre la nécessité, d'une part, de refinancer les services publics français, notamment le service public de l'hôpital, le service public de la justice, le service public de l'éducation et le service public de la sécurité, en même temps de réduire et notre déficit et de commencer à réduire notre endettement et d'avoir de véritables discussion de fond sur la fiscalité, sur la justice fiscale et sur qui doit repayer à nouveau des impôts dans notre pays. Donc son équilibre va être extrêmement délicat. Et autant là, sur les retraites, il peut faire une sorte de tour de magie en disant discussion sans suspension et à la fin, et c'est sans doute à la fin que ça sera le plus difficile, si les partenaires sociaux obtiennent un accord, imaginons que c'est un accord qui déplaise totalement, notamment sur la question de l'âge, à la droite et à la Macronie, si l'accord est obtenu, comment François Bayrou garantira son application? Là, sur le sujet du budget, vous pouvez pas faire de tour de passe-passe pour trouver un équilibre sur des positions qui sont des positions presque irréconciliable sur est-ce que je mets la priorité sur le financement des services publics et sur le rétablissement de la justice fiscale, ou est-ce que je mets la priorité sur le fait de réduire les dépenses de l'État. François Bayrou m'a paru prendre une position étrange en essayant de mettre en avant cette idée de réconciliation de la France avec les entreprises, comme si les Français était dans une situation conflictuelle avec les entreprises, ce que je constate pas du tout, et ce que personne ne disait jusque-là. Il n'y a pas du tout de réconciliation à faire entre la France et les entreprises pour justifier le fait que la fiscalité des entreprises ne devait pas trop bouger en son sens, et il a fait une forme de pirouette sur l'État en expliquant que en mettant un peu d'intelligence artificielle, comme par magie, il allait faire disparaître et les difficultés de financement et les difficultés d'investissement de l'État sur un sujet où on attendait sans doute de sa part une véritable vision de l'action publique. Là, il a manqué quelque chose, et c'est sur les visions de l'action publique, du financement des collectivités locales, du financement de l'investissement public, de l'éducation, de la recherche, de la santé, que peut se construire véritablement ce qu'est un budget. François Bayrou a dit quelque chose qui était quand même assez paradoxal. Il a expliqué ce qu'était le nouvel format de loi de finances que la France a depuis plus de 20 ans. Il a dit on va arrêter tous les ans de juste rajouter quelques pourcents à nos dépenses. C'est une réforme de la fiscalité, des finances publiques françaises qu'on a fait il y a plus de 20 ans. Je me suis dit, ce décalage entre un discours qu'il aurait pu prononcer il y a 20 ans et la réalité d'aujourd'hui est un peu dingue, et c'est pas avec ce type de pirouette qu'on peut s'en sortir.
Roland Carol, on pourrait opposer à Agathe Cagé que notamment sur le sujet de la réduction des dépenses, François Bayrou a mis la barre beaucoup moins haut que ne l'avait mise Michel Barnier. Je prends un exemple, Agathe Cagé soulevait la question des collectivités territoriales. François Bayrou a annoncé que l'effort demandé à ces collectivités ne serait pas de 5 milliards d'euros, comme l'avait proposé Michel Barnier, mais seulement, entre guillemets seulement, de 2,2 milliards d'euros. C'est déjà un effort substantiel.
Ce qu'il avait déjà dit deux ou trois fois.
Absolument, mais tout de même, c'est pas la même dynamique.
Écoutez, moi, au fond, pour raccourcir ma réponse, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Agathe Cagé dans sa réponse précédente. Mais j'ajouterais, il y a belle lurette que les budgets ne sont pas adoptés par l'Assemblée nationale. Il y a belle lurette, c'est toujours un 49-3. On ne peut pas, les profs de droit constitutionnel, ils disent tous que le vote du budget, c'est le signe d'appartenance ou pas à la majorité. Comme il n'y a pas de majorité, il ne peut pas y avoir de vote d'un budget, encore moins sous Bayrou que ça n'a été le cas sous les précédents, Borne y compris. Donc, voilà, on peut pas réfléchir comme ça, comme s'il n'y avait pas ce climat et cette donnée politique de l'absence de majorité. J'ajoute que là où Bayrou, pour moi, a été le plus contradictoire dans son discours d'aujourd'hui, c'est qu'il commence par un assez long développement sur la dette, sur le plan financier et même, explique-t-il, moral, le fait qu'on transmet à des générations le soin de payer nos erreurs, voilà. Tout ça est très bien, assez convaincant. Et puis ensuite, il a un discours où il prend chacun des départements ministériels et il crée des dépenses, partout. Chaque fois, c'est un plan, c'est un investissement, c'est du fonctionnement, c'est tous des dépenses. Comment on sort de cette contradiction? Ça, il l'a évidemment pas effleuré, puisque il est l'homme de cette contradiction. Il a toujours parlé contre la dette, et là, il ne fait rien pour réduire la dette, et au contraire, il nous propose des tas de dépenses nouvelles.
L'autre sujet, évidemment, l'autre grand axe du discours de politique générale de François Bayrou, Agathe Cagé, c'est la façon qu'il souhaiterait de revivifier la démocratie. Il a abordé le sujet de la proportionnelle. Il souhaiterait reprendre l'étude plutôt des cahiers de doléances, ces cahiers de doléances qui avaient été rédigés notamment par les Gilets jaunes et par leur soutien. Il souhaite aussi créer une banque de la démocratie. Est-ce que sur ce sujet-là, Agathe Cagé, le Premier ministre est au niveau?
On a un Premier ministre qui ne nous surprend pas sur ces sujets-là. Le point qu'il fait sur les cahiers de doléances est un point intéressant. En effet, on a une grande dynamique des Français, des citoyens français, pour s'exprimer au moment des Gilets jaunes. Et c'est vrai que ça a été enterré et qu'on n'a pas du tout ni tiré les conclusions, ni permis finalement aux Français de se lire les uns les autres et de voir par les mots des uns et des autres ce qui remontait dans notre pays. Or, je pense que pour recommencer à tisser du lien social dans la société, il faut diffuser cette expression citoyenne qui a été une expression citoyenne très forte. Mais si je mets ce point de côté, François Bayrou a fait du François Bayrou et on a presque retrouvé l'éphémère ministre de 2017 qui, revenant au pouvoir peut-être pour un temps aussi court, se dit je vais remettre mes deux priorités sur la table de travail, la banque de la démocratie qui, c'est vrai, a été abandonnée par le président de la République dès que François Bayrou a quitté son gouvernement, et le sujet de la proportionnelle.
Pour vous, c'est pas une clé importante aujourd'hui pour permettre de mieux représenter les Français à l'Assemblée nationale?
Je pense que le sujet aujourd'hui prioritaire n'est pas le sujet institutionnel, et vouloir mettre le sujet de la proportionnelle comme sujet phare de la discussion, c'est une façon d'essayer de contourner ou d'occulter les problématiques fiscales, économiques et sociales qui se posent avant tout dans notre pays. On le voit bien avec la composition de l'Assemblée actuelle, que quel que soit le mode de scrutin, on a des résultats politiques beaucoup plus inattendus que ce qu'on pouvait constater par le passé. La banque de la démocratie, c'est sans doute un sujet sur lequel il faudrait accélérer assez rapidement, parce que là-dessus peut se jouer aussi le sentiment qu'auront les citoyens, que chacun peut se présenter aux futures élections. Le sujet de la proportionnelle, s'il est traité de manière presque politicienne, chacun essayant de construire ses futures cartes électorales, alors on sera dans des formes de négociations qui feront rien que gagner à la démocratie française.
La banque de la démocratie, on rappelle juste d'un mot, le principe, c'est permettre aux partis politiques, aux syndicats également, de se financer sans avoir besoin de passer par des stratégies de contournement, et notamment par le secteur privé, par des banques privées. Roland Carol, pour vous, ces sujets institutionnels, et notamment le sujet de la proportionnelle, c'est un sujet de rendez-vous pour revivifier la démocratie?
C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est moins la Constitution, les institutions nationales, c'est la vie quotidienne de la démocratie. C'est faire en sorte que les citoyens soient mis dans le coup de la décision politique. Alors, de ce point de vue, la Banque de la démocratie, c'est bien. Ça va permettre, en effet, à des organisations politiques d'avoir un peu d'argent pour travailler avec les citoyens. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Agathe Cagé sur les cahiers de doléances. Moi, je suis même surpris que les chercheurs n'en aient pas fait un objet plus important d'étude. Il y a pratiquement...
Alors, certains sont saisis tout de même de ces cahiers de doléances.
Assez peu, c'est vrai, mais tout de même. J'ai lu l'ensemble de la littérature. On sent qu'il y a... C'est vraiment un sujet qui n'a pas été pris en compte par la communauté de la recherche à laquelle nous appartenons par ailleurs. Mais voilà, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il essaye quand même, alors c'est timide, c'est pas à pas, c'est parfois un peu suranné dans sa façon de le dire, mais il essaye de ne pas parler que de la démocratie représentative. Il en parle, et il faut bien en parler puisqu'elle est en crise, mais... Il essaye de parler un peu, d'aborder le sujet de la participation citoyenne aux décisions qui les concernent. Et ça, je trouve que s'il faisait un effort pour aller un peu plus loin dans ce sens, eh ben, ça serait bienvenu.
Je voudrais citer la fin du discours de politique générale de François Bayrou. « Je connais tous les risques, dit-il. Si nous nous trompons, nous corrigerons, mais le risque, c'est la vie. » Comme disait Pierre Mendès France, la référence n'est pas ici par hasard. Il aurait dit « Il n'y a pas de politique sans risque, il n'y a que des politiques sans chance. » Fin de citation. Est-ce que François Bayrou aura besoin de beaucoup de chance dans les semaines et dans les mois qui viennent, Agathe Cagé?
Je pense qu'il aura à minima besoin d'avoir une véritable vision de la politique qui veut conduire, une vision telle que celle que Pierre Mendès-France avait. C'est-à-dire que quand Pierre Mendès-France, en 1953, puis en 1954, s'est présenté devant les députés, c'est en leur disant « voilà le chemin qu'on va suivre. Si vous ne voulez pas suivre ce chemin avec moi, alors ne me permettez pas de prendre la tête du gouvernement. Et si vous voulez suivre ce chemin avec moi, une fois que nous l'avons choisi, nous allons le mener étape par étape. » François Bayrou s'est pas totalement inscrit dans la grandeur des discours de Pierre Mendès-France aujourd'hui.
Roland Carole, sur ce point de vue, il manque une vision aujourd'hui à François Bayrou pour tenter de créer une majorité à l'Assemblée nationale?
Sans doute manque-t-il une vision, mais sans doute aussi une volonté d'être au vrai contact des citoyens. Mendès, parler tous les samedis à la Nation en direct. Mendès, il a interrompu les négociations avec les indépendantistes indochinois à Genève. Il l'a interrompu pour aller rendre compte de la négociation aux citoyens français. Voilà, on n'est plus dans une époque où on imagine ça, et c'est dommage. La politique se fait dans des cénacles, des conclaves, dirait Bayrou, dans lesquels on se rencontre, on parle en secret, on négocie, on sort et il faut... décrypter à la télévision sur le visage des participants pour savoir s'ils se sont mis un peu d'accord ou pas. Non, ça c'est un peu une caricature de démocratie, et je crois que nous avons besoin de réinjecter de la démocratie participative dans ce pays.
Mais on pourrait arguer que cette recherche de contact, elle se fait justement à travers l'étude, l'examen des cahiers de doléances, le retour au cumul des mandats possibles, et puis quelques allers-retours aussi à Pau dans sa circonscription.
Le retour au cumul des mandats, à mon avis, c'est le contraire. Ça, c'est vraiment...
C'est son argument, c'est l'argument de François Bayrou qui permettrait.
Moi, c'est un argument qui non seulement ne me convainc pas, mais qui me scandalise assez. C'est un progrès que d'avoir empêché les hommes politiques de cumuler les mandats. On ne va pas revenir à ça.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, de ce débat. Roland Carole, je rappelle que vous êtes politologue, directeur de recherche au CEVIPOF, auteur de Mon voyage au cœur de la Ve République, un ouvrage qui a paru chez Kalman Lévy en 2023. Agathe Cagé, docteur en sciences politiques, autrice de Classe figée, Comprendre la France empêchée, qui est paru chez Flammarion il y a un an tout juste. Merci à tous les deux.
Merci.